Amen et bonjour à chacun. Donc j'espère que vous m'entendez bien et sinon faites-moi un petit signe. Et je vous propose ce matin qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Marc 8. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors pourquoi Marc 8? En fait, je triche un petit peu en prenant ce passage ce matin, parce que depuis le début de l'année, depuis janvier, avec le groupe de jeunes, on parcourt cet évangile, donc on en arrive à peu près à la moitié. Et ce mercredi, voilà, j'avais tout le chapitre 8, et c'était beaucoup trop long pour le faire juste au groupe de jeunes. Du coup, je l'ai divisé en deux, et j'en fais cette première partie au culte. On fera la suite au mercredi avec les jeunes. Et de quoi est-ce que parle ce texte? Je ne sais pas si vous connaissez Cassandre. Cassandre qui est un personnage de la mythologie grecque et qui avait une particularité, enfin deux particularités en réalité. Premièrement, elle connaissait l'avenir. Elle savait avec vérité ce qui allait se produire. Ça, c'est plutôt pas mal comme pouvoir. Mais elle avait aussi une sorte de malédiction, d'après la légende, qui était que quand elle dirait ses vérités, personne ne l'écouterait. Et là, on la voit sur cette représentation en train de s'arracher les cheveux parce qu'elle avait prédit la chute de Troie qu'on voit brûler derrière et personne ne l'a écoutée. Il n'y a rien de plus frustrant et bah, des fois, ça nous arrive un petit peu dans nos vies de manière assez légère quand on est persuadé d'avoir raison. On parle à quelqu'un et on n'est pas cru, on n'est pas écouté. Et si tu es chrétien, des fois, cette frustration, on l'a quand on partage l'évangile. On a l'occasion de parler de Jésus à des personnes autour de nous. Et ces personnes, bah, parfois, voire même souvent, elles refusent d'écouter. Elles ne comprennent pas. Elles refusent de croire. Et bah, on se sent peut-être un petit peu des Cassandres, des fois, à ce sujet. Et la grande question, qui se pose à nous, c'est en fait, pourquoi est-ce que les gens ne se tournent pas vers Jésus tout le temps? Systématiquement, quand ils entendent la bonne nouvelle. Si Dieu existe vraiment, si l'évangile est clair, comment se fait-il que toutes les personnes ne croient pas? Ça, c'est une grande question et le passage qu'on va voir aujourd'hui nous permet d'avoir un regard, il répond à la fois à cette question et nous offre un petit peu un regard différent et nous fait prendre du recul sur cette interrogation. Je vais juste commencer par vous donner un petit peu de contexte sur l'évangile de Marc. Là, on est en plein milieu de l'évangile. Mais pour comprendre l'évangile de Marc, en fait, il suffit de lire le premier verset. Si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques au collège et au lycée, souvent, en mathématiques, on énonce un théorème. Par exemple, le théorème de Pythagore, a carré plus b carré égale c carré, etc. Et ensuite, on fait la preuve. Donc d'abord, on annonce quelque chose, le théorème, la thèse, et ensuite, on le démontre. Et c'est exactement ce que fait Marc dans son évangile. Au premier verset, il donne le théorème, il donne sa thèse. Et sa thèse, c'est qu'il va nous parler d'une bonne nouvelle qui concerne Jésus, donc un homme. Et cet homme, c'est aussi le Christ. Et Christ, ça veut dire que c'était le sauveur qui était attendu, le sauveur de son peuple. Et troisième chose, il est fils de Dieu, donc il est une nature divine. Ça, c'est la thèse de Marc. Et dans les premiers chapitres, eh ben en fait, il va le démontrer. Il va démontrer comment Jésus est bien le fils de Dieu en racontant tous les miracles qu'il a fait, toute l'autorité qu'il a et qui est une autorité clairement divine. Et il montre aussi que c'est bien le sauveur qui est venu délivrer son peuple, sauver des humains et en particulier les sauver de leurs péchés. Et ça, donc Marc le montre clairement, même si pour le moment, après 8 chapitres, personne, aucun humain n'a réellement reconnu ces vérités sur Jésus. Et le passage qu'on va voir ce matin, ça forme un bloc, mais qui est divisé en 3 scènes. Et on pourrait les lire, on va les lire une par une et on va voir à quel point, en fait, elles nous dirigent vers un seul message. Et tout est lié à des miracles. On va commencer par voir un miracle qui va être refusé à des pharisiens. Ensuite, comment les disciples eux-mêmes étaient incapables de comprendre les miracles de Jésus. Et enfin, on verra le plus grand miracle que Jésus a fait et qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on lise cette première scène dans l'évangile de Marc. Et voilà, donc je vais commencer la lecture au verset 10. Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?» Oui, je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Donc là, à ce moment-là, Jésus en fait revient d'une sorte de tournée. Il a fait une escapade dans un territoire non juif et là, il revient en Galilée où il y a beaucoup de juifs, et Jésus est attendu. Il est attendu par qui ? Par les pharisiens qui sont ses plus grands opposants. Justement, ce sont ceux qui croient le moins que ce soit le Christ, que ce soit le Messie et que ce soit le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Les pharisiens lui demandent un miracle. Et c'est pas la première fois ni la dernière fois dans la Bible que des personnes demandent des miracles. Et parfois, Dieu répond, mais là on voit que Jésus s'oppose à cette demande et qu'il n'y donne pas suite. On va essayer de comprendre pourquoi. Et on va repérer quelques caractéristiques de l'attitude des pharisiens. Et premièrement, là, Marc nous montre clairement que l'attitude des pharisiens, elle est dès le départ en opposition par rapport à Jésus. Elle est agressive. À cet endroit-là, les pharisiens ne sont pas réellement en train de demander un miracle pour être convaincus, malgré les apparences. En réalité, ici, les pharisiens sont déjà convaincus que Jésus est un menteur et ils veulent simplement le mettre à l'épreuve. Donc, ils sont, voilà, leur a priori, c'est que Jésus n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu. Et ils demandent un miracle, non pas pour réellement être convaincus, mais justement, ils demandent un miracle pour se convaincre eux-mêmes que Jésus n'est pas qui il dit qu'il est. Alors, en quoi est-ce qu'un miracle, que demander un miracle, serait une mise à l'épreuve pour Jésus? Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, ici, ce passage, cette notion de faire un miracle et de mise à l'épreuve, ça rappelle les tentations de Jésus dans le désert. Et Matthieu nous raconte ça très bien quand il détaille la manière dont Satan a mis à l'épreuve Jésus. Notamment, une des tentations, c'est de dire à Jésus, bah voilà, je t'amène sur le haut du temple, sur le toit du temple, saute. Et il y a des anges qui vont venir pour te sauver. Et ça va montrer à tout le monde, à tous ceux qui te regardent, clairement que tu es Dieu. Vas-y, montre-leur à tous qui tu es. Et Jésus a refusé au diable. Pourquoi ? Parce que le but de Jésus, la mission de Jésus, ce n'est pas d'utiliser ses pouvoirs pour imposer sa divinité aux humains qui l'entourent. Il est venu pour une autre mission qu'on va voir plus tard. Mais l'enjeu, ici, pour Jésus, en venant sur Terre, ce n'est pas de montrer à tout le monde qu'il est Dieu. C'est pas ça l'enjeu de sa venue. Et donc, ce serait une tentation pour Jésus de mal utiliser ses pouvoirs, de les utiliser de manière, en un sens égoïste, pour lui, plutôt que pour sa mission. Et sa mission, elle est réellement pour nous. Le deuxième élément sur la manière, pourquoi est-ce que c'est une mise à l'épreuve, que de demander un signe comme ça à Jésus. En regardant bien les mots, on se rend compte que les pharisiens ne demandent pas n'importe quel miracle. Ils demandent un signe qui vient du ciel. Donc finalement, là, les pharisiens sont en train de dire, Jésus, depuis le début, tu nous dis que tu es Dieu. Et donc, montre-nous une preuve irréfutable, indiscutable, que tu es Dieu. Et donc, c'est pas n'importe quel miracle. Il faut que ce soit quelque chose qu'il y a seulement Dieu qui peut le faire. Pourquoi est-ce que c'est un piège? Eh bien, sans doute que, alors, c'est explicite dans le texte, mais on peut s'attendre à ce que les pharisiens, selon la réponse, selon ce que fait Jésus, ils vont avoir plusieurs attitudes. Ils ont peut-être déjà prévu ce qu'ils allaient faire. Si Jésus ne fait rien, ou s'il fait un miracle pas assez impressionnant à leur goût, eh bien, ils vont simplement lui dire, bah non, ça ne nous convainc pas. On va considérer ça comme une preuve que tu n'es pas Dieu. Et sans doute que s'il fait quelque chose de suffisamment impressionnant, eh bien, ils vont pouvoir l'accuser soit de transgresser une loi, soit de tirer ses pouvoirs de Satan plutôt que de Dieu, comme ils l'ont déjà fait plus tôt dans l'évangile de Marc. Et ça, donc, c'est pour ça que c'est réellement un piège. Et cette attitude, elle nous rappelle beaucoup de gens aujourd'hui, l'attitude de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a un mouvement qui s'appelle le nouvel athéisme. C'est des personnes qui sont athées, qui sont très très agressives et virulentes envers la religion et notamment envers le christianisme. Et dans leur soi-disant démonstration, ils prennent beaucoup de soi-disant preuves pour démontrer que Dieu n'existe pas. Et en réalité, quand on creuse, en fait, ils sont absolument pas dans une démarche objective. De la même manière que parfois on discute avec des personnes et qui disent « Moi, je ne croirai que le jour où Dieu se manifestera clairement à moi. » Mais en réalité, c'est des personnes qui partent du présupposé que Dieu n'existe pas et qui utilisent l'absence de preuves légitimes à leurs yeux pour rester dans cette conviction. Et franchement, même si un ange leur apparaissait, la plupart d'entre eux préféraient croire à une hallucination plutôt qu'à une preuve. Donc, ces personnes sont dans une posture, dès le départ, agressive par rapport à Jésus et par rapport à Dieu. Ça, c'est la première caractéristique de l'attitude des pharisiens et qui rappelle celle de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et il y a un deuxième point, une deuxième problématique par rapport à cette demande des pharisiens. C'est que c'est une attitude qui est profondément orgueilleuse. Le fait de demander à Dieu ou à Jésus de nous apporter une preuve irréfutable de son existence, de sa présence, de qui il est, ça pose un vrai problème philosophique, existentiel. Je m'explique. Si je demande à Dieu de m'apporter une preuve irréfutable qu'il existe, cela veut dire que j'ai la capacité moi-même de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Je me place en fait comme le juge ultime, comme un meilleur juge que Dieu pour juger de est-ce qu'il existe ou pas. En fait, je me place au-dessus de Dieu. C'est un peu une sorte d'idolâtrie de la raison et de ma personne parce que je considère que la chose la plus fiable qui existe dans l'univers, c'est moi, ma raison, ma capacité à discerner est-ce qu'une preuve est recevable ou pas. Alors le problème, c'est que Dieu, s'il existe, il est créateur et moi je suis une créature, il est largement au-dessus de nous. Et donc, je pourrais jamais être au-dessus de lui et je pourrais jamais être sûr de manière complètement fiable parce que sinon, ça voudrait dire que c'est moi qui ai cette capacité réellement de discerner le vrai du faux. Et ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans la Genèse. Adam et Ève, ils ont voulu ne pas faire confiance à Dieu pour distinguer le bien du mal et être en capacité de le faire eux-mêmes. C'est un petit peu la même chose avec les pharisiens et beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils refusent que ce soit Dieu qui dise ce qui est vrai et ce qui est faux, ou que ce soit Dieu qui détermine lui-même la manière dont il se révèle. Et ils veulent se placer eux-mêmes en juge, en capacité de juger ce qui est vrai et ce qui est faux. Et enfin, la dernière caractéristique de l'attitude des pharisiens, c'est qu'elle est vaine, elle est sans résultat. On voit Jésus par rapport à cette demande. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond non, je ne vais pas entrer dans votre jeu. Vous me tendez un piège, vous êtes convaincu que je ne suis pas qui je dis que je suis. Et ben je vais vous laissé dans vos présupposés. Et en fait, Jésus n'a rien à prouver à personne. Dieu n'a rien à prouver à personne. Et il ne va pas chercher à le faire. Si on vient, lui, dans l'orgueil avec nos a priori, il y a ce risque énorme et malheureux qu'il nous laisse là-dedans. Et pourtant, on voit ici que Jésus savait sans doute très bien ce qui allait se passer. Il est quand même venu à cet endroit. Il a quand même donné l'opportunité aux pharisiens de l'entendre. Face au refus, il s'en va. Et ça, ça a déjà quelques applications pour nous aujourd'hui. Peut-être que tu es en recherche de Dieu. Et dans ce cas, c'est important, même sans savoir, peut-être que tu n'es pas convaincu que Dieu existe, mais si tu le cherches, alors il est important de le chercher dans l'humilité et non pas dans l'orgueil. Être dans une posture où, de dire où si Dieu existe, alors je suis prêt à me soumettre, à accepter que il se révèle dans les termes qui lui semblent bons à lui et pas à moi. Ce n'est pas à imposer, à moi d'imposer des preuves à Dieu. Le deuxième point, c'est si tu es chrétien et si comme moi tu as pas mal de questions de la part des personnes qui t'entourent sur justement la pourquoi est-ce que tu crois que Dieu existe, pourquoi est-ce que tu crois que le christianisme est vrai. Et on tombe souvent dans des débats sur justement la véracité de la Bible, pourquoi est-ce que Dieu existe, etc. Et c'est ce qu'on appelle souvent l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne. Et c'est super bien parce que dans 2 semaines, justement, on va avoir un moment de culte prolongé par une après-midi sur justement la manière dont on peut répondre à ces questions. Et c'est effectivement super important d'avoir des éléments pour montrer que notre foi, elle n'est pas incohérente. Cependant, il est super important de ne pas se limiter à ça. L'enjeu n'est pas de prouver que Dieu existe. Dieu lui-même, dans la Bible, il cherche pas à prouver qu'il existe. Encore une fois, Dieu n'a rien à prouver. Jésus lui-même n'avait rien à prouver. Il est venu pour autre chose. Il n'est pas venu pour que des gens acceptent intellectuellement qu'il existe. Il est venu pour que, on va le voir, on puisse de nouveau être en relation avec lui et qu'on soit prêt à se soumettre à lui. Et je vous donne cette petite citation que j'ai lue cette semaine. C'était sur un article au sujet de Ravi Zacharias, qui est un grand apologète, justement, et qui est décédé il y a quelques jours. Et l'article résumait un petit peu la vie de Zacharias. Et l'auteur insistait sur le fait que, justement, même sur cet homme qui était très, très bon dans la logique et dans la démonstration que la foi chrétienne, c'est la seule chose qui est cohérente, en fait, du point de vue logique. Mais en soi, il ne s'arrêtait jamais là, Ravi Zacharias. Il amenait toujours au vrai message de la Bible. Et il amenait toujours à Christ. Et c'est ce que Nasser nous a aussi rappelé tout à l'heure, c'est que ce centre de la Bible, c'est bien Christ, c'est bien comment aller au ciel. Et donc, nous-mêmes, dans la manière dont nous discutons avec nos connaissances, c'est important de garder ça en tête. Il s'agit pas juste de gagner un débat intellectuel, mais bien d'annoncer Christ. Voilà, on a vu une première raison pour laquelle certaines personnes ne croient pas, c'est tout simplement parce que elles refusent de croire, elles persistent dans une opposition active à Dieu et à Jésus. Maintenant, on va passer à la deuxième scène qui se focalise cette fois-ci sur les disciples. Donc, Jésus quitte les pharisiens, quitte l'opposition et se retrouve dans la barque avec ses disciples. Et je vais lire donc la suite du passage à partir du verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Et Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient en eux. Ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Avez-vous des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Et donc là, en fait, on se rend compte que l'opposition et l'incompréhension, elle n'est pas uniquement le fait des pharisiens, mais elle est aussi, dans une certaine mesure, le fait des disciples. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Alors, ça peut faire sourire au début, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Jésus est en train de donner une parabole à ses disciples, une image, une illustration. Il prend l'image du levain pour leur faire une leçon spirituelle. Et les disciples ne comprennent pas. Et c'est pas juste qu'ils ne comprennent pas la parabole, l'illustration, c'est qu'ils ne comprennent même pas qu'il s'agit d'une parabole. Ils sont complètement à côté de la plaque. Et au début, ça peut un petit peu nous faire sourire. On se dit c'est assez mignon la manière dont les disciples sont se trompent complètement sur le discours de Jésus. Et pourtant, quand on lit la réaction de Jésus, elle paraît il paraît exaspéré, presque énervé de cette incompréhension des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus est aussi exaspéré de cela? Alors, pour ça, il faut bien comprendre quel est le but des paraboles et des miracles. Jésus, plutôt dans l'Évangile, a bien souligné le fait qu'il s'exprime en parabole, ça avait deux buts simultanés. D'un côté, la parabole permet à ce que les disciples puissent comprendre des réalités spirituelles. C'est la manière que Jésus avait pour leur apprendre des choses sur qui il était, sur ce qu'il était venu faire sur terre. C'était des signes, des symboles, pour son identité de roi et au sujet de son royaume. Et les miracles, c'est un petit peu la même chose. Les miracles, le but du miracle, c'est pas en soi de faire un miracle, mais c'est toujours pour pointer vers quelque chose, pour donner une leçon. Soit pour apprendre quelque chose sur Jésus lui-même, son identité, son pouvoir, soit pour apprendre quelque chose sur peut-être le royaume de Dieu, là aussi. Et là, les disciples, ils sont incapables de comprendre ni les paraboles, ni les miracles. Et ça, on le voit dans la manière dont Jésus, quand il explique qu'ils ne comprennent pas les paraboles, il rattache ça au fait qu'ils n'ont pas compris le miracle qui vient d'avoir lieu juste avant ce passage, la multiplication des pains. Et les deux sont liés. Vous connaissez peut-être ce dicton assez célèbre qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et on pourrait le transposer ici avec les disciples en disant que quand Jésus montre son royaume, quand Jésus montre qui il est, les disciples regardent le doigt. Quand Jésus fait un miracle pour montrer qui il est, les disciples regardent le miracle. Quand Jésus donne une illustration pour donner une leçon sur son royaume, les disciples regardent l'illustration au lieu de regarder ce qui est illustré. Et ça, c'est super grave. Pourquoi c'est grave ? Parce que ça place les disciples, s'ils ne comprennent pas tout ça, ça veut dire qu'en fait, ils sont dans le même état que les ennemis de Dieu. Et Jésus est clair dans la manière dont il répond à ses disciples. Quand il leur dit qu'ils ont des yeux et qu'ils ne voient pas, qu'ils ont des oreilles et qu'ils n'entendent pas, ça, c'est clairement l'état de ceux qui sont en opposition à Dieu. C'est l'état de ceux qui ne comprennent pas les paraboles et donc qui n'appartiennent pas au royaume. Quand Jésus leur dit qu'ils ont le cœur endurci, avoir le cœur endurci, ça, dans les évangiles, normalement, ça s'adresse justement aux pharisiens et aux opposants de Jésus. Dans l'Ancien Testament, ça qualifie le cœur du peuple qui est rebelle, ça qualifie le cœur du pharaon. Dans ce passage, tout cela est appliqué aux disciples, des disciples de Jésus, qui sont constamment avec Jésus, sans doute depuis plusieurs années, qui bénéficient de sa présence, de son enseignement, jour et nuit depuis plusieurs années. Et ensuite, ce sont des disciples qui sont de bonne volonté. Ils ont envie de connaître Jésus, ils ont envie de faire partie de son royaume. Ils ont accepté de tout quitter, littéralement, leur métier, leur famille, dans l'inconnu pour suivre Jésus. Et pourtant, ces personnes-là, elles se retrouvent dans la même situation que ceux qu'on a vus juste avant, les pharisiens, qui sont opposés à Dieu. Et ça, ça casse complètement le mythe de se dire que l'important, c'est d'avoir une recherche honnête. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de chercher à connaître Dieu honnêtement, de chercher à faire le bien honnêtement. L'être humain est beaucoup trop aveugle, aveuglé, naturellement, pour même comprendre quoi que ce soit sur Jésus et sur Dieu. Et ça doit nous faire réaliser à quel point nous sommes totalement dépendants de Dieu et incapables même de comprendre les choses sur le salut. On va le creuser cette notion plus tard, mais ça nous appelle à réellement reposer sur Dieu et sur sa puissance, sur son action, plutôt que sur nos propres efforts, que ce soit pour justement notre propre recherche de Dieu ou sur nous, les personnes dans notre entourage qui recherchent Dieu. Et cette doctrine que, en fait, même les personnes, même les disciples de Jésus sont incapables de comprendre réellement qui il est, c'est cette doctrine, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on appelle ça la doctrine de la dépravation totale. C'est cette doctrine en théologie qui dit que l'être humain est complètement touché par le péché, complètement affecté par le péché. Et dépravation totale, on a tendance à s'imaginer que ça veut dire qu'on fait d'énormes péchés, qu'on est tous des meurtriers. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. La dépravation totale, ça veut dire que même si on a Jésus à côté de nous, qui nous ouvre la voie du salut, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien en fait, on est même incapable de voir ce chemin qui est en train d'être ouvert. Il y a une illustration qu'on emploie souvent pour expliquer la manière dont Dieu nous sauve. Et cette illustration, j'ai mis cette image, c'est cette idée que les humains pécheurs, ce serait un petit peu comme un humain, une personne qui est en train de se noyer, donc qui va mourir. Et Dieu, il nous jette la bouée du salut à côté de nous. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'attraper cette bouée. Alors, c'est une bonne image, mais en fait, elle est très limitée. Parce que ce que ce passage nous montre, c'est que on est comme la personne qui est en train de se noyer, mais en réalité, on est aveugle. En fait, on ne voit pas la bouée qui est à côté de nous. Et je dirais même qu'on est aveugle et manchot. On n'est pas en capacité d'attraper cette bouée à côté de nous. Il faut que Dieu, non seulement nous accorde le salut, mais nous permette de le saisir. Parce que naturellement, on ne serait pas capable de le saisir. Et pour revenir à cette question du départ, pourquoi est-ce que des gens ne se convertissent pas? Ce passage nous montre en fait qu'il n'y a rien de plus normal. En fait, c'est normal que les personnes ne croient pas en Jésus. Rien de plus normal parce qu'on est trop touché par le péché, on est trop aveuglé, on est trop loin de Dieu pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Donc c'est tout à fait normal que les gens ne reçoivent pas l'évangile. Et en fait, la question légitime, ce serait plutôt l'inverse. Comment est-ce possible que des chrétiens existent? Si tu crois en Jésus, comment est-ce que toi, tu peux croire en Jésus si même les disciples, après tout ce qu'ils avaient vu et vécu avec Jésus-Christ, n'étaient pas capables de croire en lui? Et c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, cette partie du miracle que Jésus va faire. Et en ayant en tête tout ce qui vient, là on va vraiment pouvoir savourer à quel point ce miracle il a du sens et à quel point il est porteur d'un espoir qui est vraiment merveilleux. On continue, donc c'est la dernière partie, la dernière scène, donc à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, Jésus et les disciples. On amena un aveugle vers Jésus, on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle regarda et dit « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Jésus fait volontairement ce miracle à cet endroit-là. Et Marc place volontairement le récit de ce miracle juste après tout ce qui vient de se passer. On l'a vu, Jésus a explicitement comparé ses disciples à des aveugles. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on amène un aveugle à Jésus. Là, il s'agit d'un aveugle physique. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Mais c'est clairement, dans cet évangile, à cet endroit-là, une image pour notre propre aveuglement spirituel, pour l'aveuglement spirituel des disciples. Et que fait Jésus face à cet aveugle? Première étape, c'est assez beau ces petits détails, la manière dont Jésus ne claque pas juste des doigts pour que les yeux de cet aveugle soient ouverts devant tous. Jésus prend l'aveugle avec lui, par la main, et l'amène à l'écart. Et on voit que la manière dont il réalise le miracle, il y a vraiment cette notion de toucher. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? En fait, il est en train de parler, de rejoindre l'aveugle dans son aveuglement. Un aveugle, son langage, c'est le toucher. Et Jésus s'approche de lui et lui parle quelque part dans son propre langage. Et c'est ce que fait Jésus avec nous. Il est plus grand que notre aveuglement spirituel. Il arrive à nous parler dans nos propres combats, même dans notre propre aveuglement. Et ensuite, que fait Dieu? Tout ce que fait Jésus, tout simplement, il ouvre les yeux de l'aveugle. Et ce message est clair, ce miracle est clair, il n'y a pas 36 000 choses à comprendre. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples et à nous, les lecteurs, que celui qui ouvre les yeux des gens dans leur aveuglement physique ou spirituel, c'est lui. Et c'est ça qu'il est venu faire, c'est ça sa mission. Sa mission, ce n'est pas tant d'être éclatant de gloire pour prouver qu'il est sa divinité. Ça viendra un jour. On lit à d'autres endroits dans la Bible qu'un jour il sera clair, même à ceux qui n'ont pas cru, que Jésus est bien le Messie, le roi souverain. Mais pour le moment, il est venu ouvrir les yeux des gens sur qui il est et son identité. Je vous affiche juste le verset qui va être dans le passage qui suit ce qu'on est en train de voir. Parce que depuis le début, je dis que voilà, Jésus nous délivre de notre aveuglement. Et on peut se poser la question, mais concrètement, en quoi est-ce que ça consiste, cet aveuglement? Et qu'est-ce que ça fait quand nos yeux sont ouverts? Et dans le passage juste après, on va le voir en pratique pour les disciples. Et ça concerne l'identité de Jésus. Jésus, juste après, va ouvrir les yeux de ses disciples, notamment de Pierre. Et Pierre va être en capacité de proclamer, de reconnaître que Jésus est le Messie, que c'est le Sauveur. Et c'est la première fois dans l'Évangile, depuis le début, depuis le verset 1, que quelqu'un va être en capacité de dire à Jésus, oui, tu es le Sauveur. Et après, Jésus va enchaîner en expliquant quelle est sa mission. Donc, cette ouverture des yeux, ce n'est pas tant sur le fait d'avoir la capacité de discerner comment bien agir dans toutes les circonstances de nos vies. Ça fait partie des conséquences, mais le cœur, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est réellement de nous ouvrir les yeux sur l'identité de Jésus et sur sa mission, sur le fait que c'est le Dieu sauveur et sur la manière dont il est venu nous sauver en mourant sur une croix. Alors, vous avez sans doute noté qu'il y a quelque chose d'assez surprenant dans ce miracle et d'assez exceptionnel. C'est que Jésus procède en deux temps, en deux étapes. Et on a presque l'impression que Jésus, il n'a pas tout à fait réussi son coup la première fois et qu'il a besoin d'un ajustement. Un peu comme quand on va chez l'ophtalmo. Et voilà, la première paire de lunettes n'était pas tout à fait bonne, donc on a besoin d'y retourner pour ajuster la correction. Alors, Jésus étant tout puissant, ce n'est pas cela dont il s'agit. Jésus sait parfaitement guérir quelqu'un du premier coup. Je pense que ce que Jésus est en train de nous montrer par ce procédé, c'est que quand il nous ouvre les yeux spirituellement, et bien parfois aussi il procède par étapes. On ne comprend pas toutes les vérités sur lui. L'ensemble de sa révélation n'est pas clair à nos yeux d'un coup. C'est d'ailleurs ce qui va se passer avec les disciples. Pierre va très bien comprendre que c'est le Messie, mais il ne va pas tout de suite comprendre ou pas tout de suite accepter que c'est un Messie qui doit souffrir et qui doit mourir. Et donc, voilà, parfois pour nous-mêmes et même souvent, il procède par étapes. Sachant que son but, c'est bien la guérison totale et c'est bien d'en arriver au point où le moment où l'aveugle est guéri, c'est le moment où il voit tout distinctement. Ce n'est pas très utile d'être à moitié aveugle. C'est pas très utile d'être dans cet état où, quand je parle à quelqu'un, je ne sais pas si je parle à mon voisin ou à un arbre. Et le but de Jésus est toujours de nous conduire à la guérison totale, à la juste et bonne compréhension totale de qui il est, ce Messie, ce Sauveur, mort pour nous. Qu'est-ce que ce passage implique pour nous? Alors ici, je vais encore une fois reprendre un petit peu ce que Nasser a dit au début de ce culte. On peut être vraiment frustré parfois de la manière dont on aimerait que la Bible ou le Saint-Esprit nous éclaire sur des projets importants de notre vie. Que ce soit dans nos choix de conjoint, de métier, d'orientation, les grands projets de nos vies. On cherche la volonté de Dieu et c'est bien. Et parfois, on a un petit peu l'impression, cette frustration que Dieu ne nous en dit pas assez. Ce passage, dans nos frustrations, même si c'est dur, il nous rappelle que l'essentiel de la révélation de Dieu, c'est de nous apprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Et ça, c'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est pour nous tous. Et peut-être même que parfois, Dieu est, voilà, volontairement, ne nous dit pas tout volontairement sur certains sujets secondaires pour qu'on puisse se rappeler qu'est-ce qui est essentiel. Et qu'on revienne sans cesse à cette vérité fondamentale de qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Malgré le fait que ce soit parfois frustrant, c'est super important de revenir à ces vérités-là. Ensuite, on s'aperçoit à quel point notre salut dépend de Jésus, du début à la fin. Et donc, encore une fois, ce que Jésus fait, c'est pas seulement nous offrir le salut. Parce que s'il nous offrait juste le salut, on serait incapable de le saisir. Jésus va jusqu'à nous permettre de le comprendre et de le saisir. Je ne suis responsable en rien dans mon salut. C'est Jésus qui a tout fait. Sans lui, je n'aurais rien pu faire. Et donc ça me pousse, ça fait partie de ces passages de la Bible qui, plutôt que de nous pousser réellement à l'action, il nous pousse surtout à nous faire tomber à genoux devant Dieu pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Et pour être dans une démarche de dépendance à lui, dans notre manière aussi dont on va évangéliser. On a vraiment besoin de prier avant tout que Jésus ouvre les yeux des personnes à qui on parle. Ne prions pas seulement pour des bonnes occasions de parler, mais prions pour que voilà, Jésus, par son esprit, puisse ouvrir les yeux des personnes qui nous entourent. Et aussi, parfois, laissons Dieu agir selon son propre rythme, son propre plan. Parfois, on va voir des personnes qui progressent peut-être plus lentement que ce à quoi on aurait envie. Laissons Dieu agir. C'est lui qui gère la progression spirituelle de chacun. Et pour conclure, j'aimerais qu'on chante un si grand miracle. Et je trouve que ce cantique, les paroles correspondent fabuleusement bien à ce passage, au message de ce passage. Et je vais juste un petit peu les lire avec vous avant qu'on puisse le chanter. Déjà, on comprend à quel point Dieu est patient avec nous, à quel point Jésus était patient avec ses disciples qui ne comprenaient rien, et à quel point il est patient avec nous qui ne comprend rien. Qu'on était dans l'ignorance totale, qu'on ne pouvait même pas saisir ce que Jésus voulait nous offrir. Et pourtant, Jésus est allé jusqu'à convaincre notre ignorance, saisir, conduire vers lui notre ignorance. Et donc le plus grand miracle, ce grand miracle, c'est aussi que Jésus nous ouvre les yeux. Ce que fait Jésus à la croix, c'est effectivement nous offrir le salut en prenant à notre place la condamnation. Mais cet effet va même plus loin. Ce qu'il a fait à la croix, sa mort à la croix, nous permet aussi de comprendre cela. Et ça nous pousse à la louange, d'une part. Et peut-être la dernière application qu'on pourra avoir ce matin, c'est que si on a bien compris ce si grand cadeau, ce si grand miracle, alors on a envie de le partager à d'autres, de le vivre et de le répandre à d'autres. Et donc qu'on puisse le faire par la parole et aussi en priant pour que Dieu opère ce si grand miracle